pas un marteau ?
Non, pas. J'ai pas besoin de marteau, ouais.
Mais ma paye, ça, tu crois que ça va aller ? Non, mais il faut tourner. T'as un tournevis, tu vois, toi ?
Qu'est-ce que vous faites ?
Un plan de main.
Un main pourquoi ?
Pour la radio. Pour que la radio, elle porte plus loin. Pour que ce soit plus joli, plus mieux entendre.
Gloria Garcia habite à Bordeaux et elle habite aussi à Cuba. Et c'est de cette île qu'elle va nous parler aujourd'hui sur Alternant FM, de cette île, de ce peuple et de ce rêve. Et comme très souvent avec Gloria Garcia, la conversation commence en musique.
Le morceau s'appelle « Cuando se crece », qui veut dire « lorsqu'on grandit ».
Il chante ? Non.
Non, il fait des vocalises de temps en temps, mais il ne chante pas vraiment.
On peut être cubain et pianiste alors.
Il y a des grands pianistes cubains, quand même. Il y a le Rubalcaba qui n'habite plus à Cuba. Il y a eu quand même Buena Vista Social Club. Comment il s'appelle, Rubén González. Il y a aussi Chucho Valdés. Et maintenant Roberto Fonseca, la nouvelle génération.
Moi je pensais très naïvement que quand on était musicien cubain, On était chanteur, on était percussionniste. Alors évidemment, un pianiste est un peu un percussionniste. On était guitariste et on jouait du cajón, c'est ça ?
Du cajón.
Et puis c'est tout.
C'est drôle comme on a des images comme ça, des poncifs sur Cuba, sur les musiciens, sur... Non mais je l'ai vu jouer... De quoi il joue encore ? Je l'ai vu jouer dans notre instrument, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est surtout de piano qu'il joue. Mais non seulement il joue, mais il compose, c'est un compositeur. Parce que moi je connais, j'ai une copine qui est pianiste, qui s'appelle Yolanda Suarez, mais elle ne compose pas, elle interprète, alors que lui il est compositeur.
Cuando se crece, c'est un morceau de lui ça ou...
Oui, bien sûr. Alors, il est, depuis quelques années, il est tous les ans au Festival de Marciac, où il a un succès fou.
Quand tu es ici, là, on est à Bordeaux, on est chez toi, tu te sens loin de Cuba ?
Pas du tout. Ah non. Non, parce que j'écoute beaucoup de musique cubaine, parce que je corresponds par Internet avec les copains cubains, donc je suis... Peut-être à moitié, je dirais, là-bas, à moitié, je ne sais pas quelle soit la quantité, mais je suis régulièrement là-bas, par la pensée et par le cœur. Mais je suis ici aussi, hein, et je fais des trucs ici, je vis ici, quand même.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de Cuba ? Alors, cette vidéo-là de Roberto Fonseca, qu'est-ce qu'il y a de Cuba ici ?
Tu peux regarder, Loni.
Non, tu sais qu'à la radio, ils verront rien.
Ah, mais c'est vrai que moi, je... Des CD, tu vois ? Il y a combien ? 200 CD, là, au moins ? Eh bien, les trois quarts sont de la musique cubaine.
Voilà, je vois Celia Cruz. Celia Cruz, c'est la musique cubaine de Miami, ça, non ?
Non, mais t'arrêtes.
Oui ou non ?
Mais non. C'est pas de la musique de Miami. Celia Cruz est faite de la salsa. La salsa, effectivement, c'est de la musique traditionnelle cubaine interprétée d'une autre façon, parce que Celia Cruz et d'autres musiciens cubains, quand ils sont partis aux États-Unis, le mélange de musique de là-bas et de Cuba a donné la salsa dans les années 70. Mais c'est toujours de la musique cubaine, quand même.
Elle fait partie de ces artistes qui habitent aux États-Unis, non?
Ah oui, enfin, elle est morte maintenant, hein?
Oui. Il n'y a pas très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps, non. Ça fait quoi, hein? 2 ans peut-être? Presque en même temps que Compay Segundo, que lui n'est pas parti aux États-Unis, bien sûr. Mais oui, Celia Cruz est partie donc, aux États-Unis au début de la Révolution. Elle n'a jamais pu revenir et que dernièrement... Sa mère a été très malade, elle est décédée d'ailleurs, et Cuba ne lui a pas donné un visa pour venir voir sa mère. Elle a été très, très peinée de ça.
Javier Cuga, oui. C'est comme ça qu'on dit. Et son orchestre, 1940-1942, ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé une certaine musique américaine. Ça. Il a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès, ce gars. Je crois même à Las Vegas, etc. Il faisait la tournée des casinos. Tu peux nous en parler?
C'est une musique de big band, mais très, très latine, très, très rythmée, et pas jazz, et pas jazz.
Elle a plein de facettes, cette musique cubaine, en fait, il n'y en a pas qu'une.
Ah, là, c'est pas qu'elle a des facettes, elle est très riche, il n'y a pas une musique cubaine, il y en a plein, parce qu'en fait, à Cuba, il y a plusieurs origines. La musique a plusieurs origines, comme le pays, c'est-à-dire qu'il y a la musique qui vient des Noirs qui sont venus à un moment donné à Cuba. Il y a d'abord les Espagnols, il y a eu donc les esclaves noirs, et puis les Français aussi, parce que les Français qui sont partis d'Haïti au moment de la Révolution, ils sont rentrés à Cuba avec leurs esclaves, et donc ils sont restés. Et donc il y a toute une musique qui s'appelle la tumba francesa, qui a comme origine cette musique française-là. Et alors, c'était rigolo parce que c'était les esclaves noirs qui imitaient les patrons et qui dansaient comme les patrons, le menuet. Alors bon, ça existe toujours, il y a toujours des associations à Cuba, il n'en reste plus beaucoup. Il y en a une à Santiago, une tumba francesa, et une autre, je crois, à Guantanamo. Mais il n'y en a plus beaucoup, mais on garde cette tradition. Et puis après, effectivement, il y a eu la musique des Africains qui sont arrivés. Alors là, c'est ce qu'on appelle la musique afro-cubaine. Et puis après, il y a les boléros des Espagnols. Et puis, bon, la musique traditionnelle cubaine qui s'est faite avec tout ça, qui est le son, la guaracha, el changui, le cha-cha-cha, et tout ça, ça fait partie de la musique cubaine.
L'instrument vraiment emblématique, l'instrument de la musique cubaine.
El tres, c'est une guitare qui a 3 doubles cordes. Et qui a une sonorité très, très particulière, qui fait partie de tous les groupes de musique traditionnelle, de son dans tous les groupes.
C'est la même musique qu'on entend, alors quand on l'entend ici, quand on en France, et quand on l'entend à Cuba, c'est exactement la même musique?
Mais ça dépend qui c'est qui l'a fait.
Par exemple, Roberto Fonseca, tu l'as déjà entendu jouer là-bas, Roberto Fonseca. Est-ce qu'il joue de la même manière?
Ah ben, la même manière qu'ici, bien sûr. Alors, je l'ai entendu une fois, c'était très marrant, parce que je l'ai vu à Santiago, cette année-là. C'est une anecdote, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais moi, elle me plaît beaucoup. Il est arrivé à la Casa de la Trova. La Casa de la Trova, c'est un tout petit café-concert où il y a une petite scène, où il y a tous les troubadours, que s'appellent les troubadours, qui viennent chanter là. Ils mettent le chapeau pour que les gens mettent un peu d'argent. Et puis, évidemment, les gens, ils mettent pas d'argent, parce que là, il y a beaucoup de Cubains qui viennent et n'ont pas de moyens. Et puis, moi, je suis au premier rang, parce que je chante toujours avec eux, tout ça. Et puis, il y a un mec qui arrive à un moment donné qui met un billet de 10 pesos. Alors là, c'est vraiment, je regarde le mec, 10 pesos, c'est pas possible. Et je me dis, mais attends, mais je le connais, ce mec. Et alors, il s'en va, il se met devant la porte. Je dis, putain, mais c'est Roberto Fonseca. Alors, je vais le voir. Et puis, je dis, mais... Hein, là, là. Alors, on se présente et tout ça. Et puis, quand le groupe qui est en train de jouer finit de chanter, jouer, je dis, eh bien voilà, je vous présente Roberto Fonseca, c'est un grand pianiste cubain qui va jouer ce soir à tel endroit. Personne ne le connaissait, parce que là, il n'y a que des Cubains. Et Roberto Fonseca, il est de la Havane, et il joue de temps en temps à la Havane, à la Zorra y el Cuervo, qui est un lieu de jazz, mais pas vraiment connu à Santiago par ce milieu-là. Il est connu, surtout à l'étranger en plus. Et donc, voilà, mais à partir de là, je suis la représentante de Roberto Fonseca à Santiago de Cuba. Mais il fait la même musique que là, bien sûr. Alors, c'est pas de la musique traditionnelle qu'il fait, lui. C'est musique traditionnelle mélangée avec le jazz, mélangée avec la musique afro-cubaine aussi. C'est un mélange qui est très intéressant, d'ailleurs.
Tu me disais que tu étais un peu déçu du concert au Rocher de Palmer, là, récemment.
Ben, oui, je suis un peu exigeante, mais c'est vrai que je l'ai vu donc à Santiago, dans un arrière-cour, un jardin magnifique qui est la Maison des Artistes à Santiago, où il y avait une centaine de personnes. Il y avait une toute petite scène, donc moi je l'avais à 5 mètres. Et puis surtout, c'était un trio. Il jouait lui, un percussionniste et un guitare électrique. Et donc, c'est autre chose. Au Rocher de Palmer, bon, d'abord, c'est beaucoup plus grand. Et puis, ils sont 7 ou 8 sur scène. Et lui, un coup, il joue, un coup, il fait jouer les autres. Un coup, il fait aussi le chef d'orchestre. C'est un peu un spectacle. Et donc, voilà, moi, j'étais un peu dessus, mais bah, voilà, ça, c'est un peu comme quand manger du riz blanc quand tu as goûté le caviar.
Vous avez déjà mangé du caviar à Cuba? Caviar russe?
Non, mais non. À Cuba, il n'y a pas de caviar.
Il n'y en a jamais eu. Même quand les Russes approvisionnaient abondamment Cuba à la Révolution cubaine.
Eh bien, je pense que le caviar n'arrivait pas jusqu'au peuple, là où je suis, moi. Je pense que dans la nomenclature et dans les grandes sphères, ils mangeaient peut-être du caviar, mais si ça se trouve, ils aimaient même pas ça. Hein. Moi, d'ailleurs, je ne trouve pas ça génial, mais bon.
c'est une longue histoire, Cuba et puis toi, Gloria. C'est une longue histoire.
Ben oui, je ne sais pas si je sais pas si elle est longue, mais c'est une belle histoire qui date effectivement de plus de 25 ans. Voilà.
Ça a commencé comment?
Eh bien, ça commence.
Vous vous êtes rencontrés où et comment, Cuba et toi?
Alors, je suis espagnole. Ben, pour nous, les Espagnols, Cuba, c'est notre imaginaire, notre exotisme, c'est nos anciennes colonies. Et donc, les Espagnols ont toujours rêvé de Cuba. Bon, moi, j'avais 20 ans en 68, donc pour nous, la révolution cubaine était extraordinaire. Donc, j'avais plein de raisons d'aimer Cuba, mais je ne la connaissais pas encore. Parce qu'avant 90, on ne pouvait pas y aller. Ou alors, il fallait aller avec des partis politiques et tout ça. Donc, on ne pouvait pas. Et puis, en 90, quand ça commençait à s'ouvrir, alors là, il y a eu, à Bordeaux, par exemple, il y avait un festival, France Cuba organisait un festival de musique, musique et culture cubaine, dont j'ai commencé à rencontrer la musique et les musiciens, et puis des gens aussi qui avaient monté des associations et qui organisaient des voyages à Cuba, des voyages avec des stages de danse, de musique, de chant. Je me suis dit, ah, voilà, ça c'est mon truc, je ne vais pas aller dans les bus, dans les hôtels comme les moutons. Là, c'est vraiment mon truc, donc je vais aller. C'était en 93. Et donc, je suis arrivée et je suis tombée amoureuse de ce pays, vraiment. Et donc, on était accueillis dans une école à Santiago qui s'appelle El Folclórico de Oriente, où effectivement, on faisait des stages de musique, de chant, de danse. Et vraiment, pour moi, ça a été la rencontre. Après, je suis revenue toute seule. Et puis, voilà, j'ai rencontré des gens. Je logeais dans des maisons d'hôtes. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Et j'avais envie de connaître ce pays. J'avais envie de connaître ces gens. C'est ce qui s'est passé. Et puis, du coup, quand on rencontre des gens, eh bien, on se fait aussi des amis, donc ben, on a envie de revenir les voir. Et puis quand même, je trouvais que c'est un pays intéressant, donc je voulais le connaître vraiment. Et moi, je pense que pour connaître vraiment un pays ou une personne ou quelque chose, il faut y aller souvent, écouter, et je continue, parce que j'aime ça, j'aime ce pays, j'aime cette musique, j'aime la danse. Tout le monde danse là-bas, ils savent tous danser.
Alors, ce pays, il est intéressant pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Cuba?
Eh bien, parce qu'ils sont tellement différent de nous, tellement différent de nous, et que quand même, bon, cette révolution a apporté quelque chose, a apporté des choses à ce pays quand même, et que ils ont une façon bien moins individualiste de vivre. Bon, effectivement, il y a deux périodes dans Cuba, celle d'avant 90 et celle d'après 90, l'Union soviétique a laissé tomber Cuba, mais quand même, c'est des gens qui ont une autre façon de vivre, une autre façon de percevoir les choses, une autre relation entre les gens. Je trouvais que à côté de nos pays individualistes et dans la consommation à fond de la caisse, il y avait une autre façon d'aborder les choses. Donc, ça m'intéressait de savoir. Bon, quand même dans un pays où finalement il y avait beaucoup de pénuries, surtout à cette époque, en 93, c'était vraiment une des périodes les plus mauvaises. Mais je voulais savoir comment ils faisaient pour vivre une période comme ça, en dehors de la société de consommation, que vraiment je trouve que dans nos pays, c'est un piège.
Après, les Cubains, ils n'ont pas eu le choix. On ne leur a pas dit société de consommation ou révolution. Il y a le blocus. Cuba, c'est une île. Hein. Alors là, en 2016, est-ce qu'ils sont avides de consommer, de devenir des consommateurs?
Ah ben absolument, absolument. Alors là, à un point, surtout les générations, les jeunes, évidemment, depuis que le pays est ouvert sur le monde, avec le tourisme, depuis que le pays est ouvert sur le monde, effectivement, ils ont accès à connaître tout ça. Et donc, ils sont avide de l'avoir, mais je pense que c'est un peu normal et que moi à un moment donné j'ai voulu les mettre en garde un peu contre la société de consommation, mais je l'ai fait une fois, après j'avais honte, j'arrêtais parce que c'est un peu indécent d'aller dire à des gens qui ont manqué de tout pendant 50 ans que la société de consommation, c'est nul, ça c'est pas possible. Bon, alors, c'est vrai que les générations, donc les jeunes, ils ont envie de consommer, d'avoir des marques de vêtements, d'avoir un iPod, on dit iPod, c'est ça. Mais les générations d'avant, qui ont connu avant la révolution, et qui ont vu et vécu ce qui a changé pour eux, et puis qui ne sont pas dans la consommation, qui ont accepté et qui acceptent toujours cette espèce de la pénurie, effectivement, mais qui ne les gêne pas vraiment, parce qu'ils se disent justement qu'il y a d'autres choses qui a apporté la révolution, qui sont aussi importantes. Et donc, cela le ressentent moins. Effectivement, il y a une espèce de conflit entre les uns et les autres. Mais bon, je pense qu'une fois que l'ancienne génération va disparaître, bon, ils resteront les autres. Mais c'est vrai que ça, à Cuba aujourd'hui, ça prend le chemin de la société de consommation, et que pour l'instant c'est pas encore tout à fait possible, parce que il y a toujours le blocus américain, et donc tant qu'il y a le blocus, il y a pas d'investissement au niveau du pays. Mais le jour où ça va changer, ça risque de changer complètement. Il y a des choses qui changent quand même, parce que il y a deux monnaies dans le pays, la monnaie nationale avec laquelle eux ils sont payés, et puis il y a la monnaie forte qui est à peu près c'est l'équivalent du dollar. Bon, il se trouve que jusqu'à maintenant, ou jusqu'en 90 et même après, il y avait que les magasins d'État on pouvait acheter avec la monnaie nationale, mais où il n'y avait rien, pas grand-chose, et de moins en moins. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux magasins, des espèces de supermarchés comme chez nous, plus petits. Mais par contre, là, on ne peut acheter qu'avec la monnaie, forte, le couk, ça s'appelle. Mais les gens n'en ont pas de couk, puisqu'ils sont payés à monnaie nationale. Donc quand même, il y a un truc qui ne va pas là. Et puis bon, il y a des gens qui en ont des couks, puisqu'il y a des gens qui louent leur maison, qui travaillent dans le tourisme, par exemple, qui ont des maisons d'hôtes ou qui ont des restaurants chez eux. Ceux-là, ils sont payés, ils se font payer en couk, donc ils ont des moyens, pas les autres. Donc du coup, ça fait une espèce de classe, il y a des classes sociales maintenant, chose qui n'existait pas avant, qui a été une des batailles de la Révolution, dès que tout le monde est au même rang, tout le monde gagne pareil, et il y en a pareil pour tout le monde. Et s'il y a une douzaine d'eux, et bien, il n'y en a qu'un pour chacun, il n'y en a pas 12 pour les uns et pas pour les autres. Bon, il y a aussi les gens, par exemple, qui reçoivent de l'argent de la famille qui est à l'extérieur. Alors, ceux qui sont aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup qui sont en Europe. Il y a, je crois que c'est 2 millions de Cubains qui sont hors Cuba et qui envoient de l'argent. Ça s'appelle des remesas. Il y a des gens qui ont des moyens. C'est souvent ceux-là même qui ont monté des commerces, c'est-à-dire des maisons d'hôtes ou des paladars, qui sont les restaurants dans les maisons, parce qu'ils ont pu avoir de l'argent de l'extérieur pour monter tout ça.
Et ça, alors, donc, quand on est cubain, qu'on a de la famille installée aux États-Unis, on peut recevoir de l'argent américain à Cuba.
Oui.
Malgré le blocus, malgré...
Obama a œuvré un peu là-dedans. Parce qu'avant, il y avait une certaine somme et Obama a décidé qu'il pouvait en envoyer plus. Ben, de toute façon, malgré le blocus, là, pour l'argent, il n'y a pas de blocus, je suppose. Et que quand même, pour l'économie cubaine, c'était une aubaine. C'était vraiment une injection d'argent dans le pays.
Fidel Castro est mort là... La semaine dernière, je crois. Fidel Castro, le Parti communiste, Raúl Castro, son frère, ils ont quelle place dans la société cubaine ou alors dans l'esprit des Cubains, dans la tête des Cubains?
Alors, ben, c'est quand même le chef. Fidel a été le chef pendant des années. Et puis maintenant, c'est son frère. Ils sont les chefs. Les chefs politiques, bien sûr. Mais pas seulement, quand même. Raoul, un peu moins. Mais Fidel était le père de la patrie. Alors là aussi, c'est encore une question de génération. Il y a des gens qui ont vécu avant la Révolution. Ils sont très fiers de ce qui a été fait par Fidel. Donc, il y a de quoi, hein. Donc, à un moment de la Révolution. Et donc, pour eux, c'est vraiment un saint. Pour les jeunes, un peu moins, parce qu'ils disent qu'il a bloqué l'évolution de l'île, l'évolution et politique et économique, ce qui est vrai aussi, hein. Raoul a quand même changé des choses. Par exemple, il a permis la libre entreprise. Bon, évidemment, il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à voir, puisque le Cuba ne produit pas grand-chose. Mais il y a des gens, par exemple, qui avant faisaient du travail au noir, en fait. Et bien maintenant, ils sont officialisés, donc ils sont déclarés et ils payent quelques impôts. C'est le cas, par exemple, des coiffeurs et d'autres métiers comme ça. C'est le cas aussi des gens qui vendent de la bouffe dans la rue, des petits sandwichs, des choses comme ça. Les marchés aussi, les marchés. Raoul a instauré les marchés de bouffe, de légumes. Il a permis aux paysans de pouvoir vendre leurs produits. Et ça, c'est énorme, et pour les paysans et pour les gens. Et puis là, on peut payer à monnaie nationale. C'est déjà pas mal. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des choses maintenant que Fidel n'est plus là, parce que Fidel avait une telle pression psychologique, même quand il n'était plus au pouvoir, il exerçait une telle pression sur les gens et sur son frère sûrement et sur toute la nomenclature qu'il ne pouvait pas vraiment faire trop de choses parce que ça serait le trahir. même si ce n'était pas explicite, tu vois, c'est cette pression de ce mec qui avait une personnalité, un charisme incroyable. D'ailleurs, quand Obama est venu dernièrement, là, il ne l'a pas reçu et il a dit qu'il fallait quand même se méfier des Américains. Donc, tu vois, que le fait que Raoul fasse quelques pas vers les États-Unis, il ne devait pas trop être d'accord. Et Raoul n'a pas fait beaucoup de pas parce qu'il était là. Ça, c'est mon avis. Maintenant qu'il n'est plus là, je pense que des choses pourraient changer. Et puis, bon, Raoul, il va être là jusqu'à 2018. Et après, il ne se représente plus. Donc, ça va changer parce que ça ne peut pas être autrement. Et puis, bon, c'est ce qu'ils disent les Cubains aussi. Il faut que ça change. D'où que, parce que je leur dis, les Américains ou les multinationales qui vont arriver, ils vont faire la même chose qu'ils font partout. Ils me disent. D'où que ça vienne, il faut que ça change. D'où que ça vienne, voilà. Parce qu'ils n'en peuvent plus, voilà. Et moi, je les trouve quand même un peu désabusés parce que ça fait longtemps qu'on leur dit que ça va changer, mais ça ne change pas. Alors, je trouve que les musiciens sont un peu désabusés, par exemple, les musiciens, parce que c'est ce que je connais le mieux. Ils en ont un peu marre, voilà. Ils attendent que ça change, même si ça vient des multinationales et de tous ces.
Tu y vas donc tu y vas souvent hein, depuis 1993 tu y vas souvent à Cuba peut-être une fois au moins une fois tous les 2 ans
Une fois par an,
une fois par an
mais deux fois par an.
2 fois par an tu y restes longtemps
2 mois à chaque fois.
Tu vas tout le temps à Santiago de Cuba?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est là où je connais les gens, je connais tout le monde, des gens. Bon, je me balade un peu aussi ailleurs, je vais à Baracoa, qui est une ville à 200 km de Santiago sur la côte, qui est un bel endroit, et où je connais des gens aussi. Bon, je connais d'autres villes de Cuba, mais en fait, je vais à Santiago comme je vais à Nantes voir des copains, par exemple. Voilà, c'est un peu plus loin. Mais sinon, c'est ça, c'est aller revoir des copains qui m'attendent et que j'ai très envie de voir, voilà, pour être avec eux. C'est là que j'ai envie d'être, voilà.
Quand tu es là-bas, quand tu vis là-bas, il y a une présence, vraiment une présence. Est-ce qu'on se sent surveillé, épié? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on dit, à qui on parle? Est-ce que la police, l'armée est présente, visible? Est-ce qu'il y a des policiers en civil? Est-ce qu'il y a des mouchards?
Alors, les policiers ne sont pas habillés en policiers, bien sûr, mais c'est extrêmement surveillé. D'ailleurs, moi, je trouve que ce régime n'a tenu que parce que c'est surveillé et qu'on tient les gens. Par exemple, il y a le comité de la Révolution, c'est-à-dire que dans chaque pâté de maison, il y a une personne qui est censée maintenir l'ordre. Dans le pâté des maisons. C'est évident que s'il y a des choses qui ne vont pas, les choses remontent. Le moindre truc est sanctionné. Alors tu ne peux pas recevoir des étrangers chez toi. Il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles aux manifs. La présidente du comité de la Révolution vient te voir pour que. Il faut aller à la manifestation, il faut aller voter, il faut voter une fois tous les 36 du mois pour les mêmes. Et tu as reçu un étranger, tu sais que c'est interdit, tu ne peux pas. Enfin, le moindre truc en dehors de ce qu'ils appellent le système révolutionnaire est sanctionné. Et donc, il y a quelqu'un qui surveille pour mettre les choses à sa place. Et sinon, en parler plus haut pour que les sanctions arrivent de plus haut. Bon, parler aux étrangers. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dès qu'un Cubain parlait avec un étranger, tu étais sûr que quand l'étranger tourner le dos, il y avait quelqu'un qui venait lui demander les papiers. C'est pas toujours des gens en uniforme. Moi, je pense, évidemment, à partir du moment où on n'a pas d'uniforme, on ne sait pas que c'est des policiers, mais on sait bien que tout est surveillé, tout le temps et partout. Et que je suis intervenu très souvent pour ça parce que je me rendais compte que j'ai discuté avec quelqu'un. Une fois que j'avais le dos tourné, on allait demander les papiers à cette personne parce qu'on n'a pas le droit. Alors, ce n'est pas écrit quelque part, mais on sait bien que ça ne se fait pas. Et quand on en voit dans les livres ou dans les films, les gens qui parlent, ils disent que pour parler avec des étrangers, et bien ils se mettent dans un coin, ils ne font pas comme ça devant tout le monde. voilà, le pays n'a pas envie que, ça change un peu maintenant bien sûr, mais n'avait pas envie que les Cubains parlent de vraiment ce qu'ils vivaient, puisque ce n'était pas toujours luisant, et que les étrangers sachent et parlent ailleurs du pays en pas bien. On ne peut pas aller loger chez des gens, chez des amis, non, on ne peut pas, il n'y a pas d'amis. On ne peut pas loger chez des gens. Il faut aller dans les hôtels ou dans les maisons d'hôtes où on remplit, même dans les maisons d'hôtes, une fiche comme dans un hôtel. Et il y a intérêt que ça soit fait dans les règles, parce que sinon les logeurs, ils se font taper sur les doigts. À mon avis, pour deux raisons. D'abord, ils veulent savoir où sont les gens. Il faut qu'ils sachent où sont les gens. Mais les étrangers, primo. Et secondo, ils savent bien qu'on ne va pas aller chez des gens sans donner de l'argent. C'est un peu comme du travail au noir. Donc, ils n'ont pas envie de ça. Donc, ils veulent tout contrôler, tout contrôler. Et puis, bon, je me souviens, à une certaine époque, dès qu'on n'avait pas le droit, c'est toujours le cas, mais là, on n'a pas le droit de recevoir quelqu'un dans sa chambre, par exemple. Un homme et une femme ne peuvent pas avoir des amis dans sa chambre. Il faut que la personne qui vient, elle remplisse une fiche comme si elle logeait là.
Même un Cubain ?
Ah ben, les Cubains, bien sûr. Ah ben oui, surtout les Cubains. Quand c'est des étrangers qui viennent ensemble, bon, peu importe. Mais quand c'est des Cubains ou des Cubaines, il faut qu'ils remplissent une fiche. Parce que sous prétexte de sécurité pour les étrangers, en fait, ils veulent contrôler tout ça. Et puis, ils veulent éviter aussi ces espèces de relations étrangers et Cubains qui sont souvent... des profits, hein. On appelle ça los jineteros o las jineteras. Ce sont des gens qui profitent des étrangers, qui se font payer des trucs. Après tout, pourquoi pas, hein. Je veux dire que les gens sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent payer, ben c'est leur truc. Bon, moi, ça m'est arrivé une fois où, d'après eux, j'ai changé deux fois dans mon séjour de fiancé. Ah, ça ne se fait pas. Hein. Ils sont venus un jour, soi-disant contrôler mon visa et tout ça. Alors qu'en fait, je le dis, mais je ne comprends pas très bien. Ça fait 3 jours que je l'ai changé, que je l'ai renouvelé. Je ne comprends pas très bien. Alors après, la logeuse m'a dit que c'était à cause de ça. Voilà. Il faut qu'ils contrôlent tout.
Alors c'est pour ça qu'ils ont ouvert des écoles et puis qu'ils ont envoyé toute la population après la Révolution, au début des années 60, pour apprendre à lire et écrire, parce qu'il fallait absolument que les Cubains sachent remplir des fiches.
Je leur dirai de ta part. En fait, savoir lire et écrire, c'est important, évidemment, bon... C'est pas nous qui allons dire le contraire. Dès que des chefs d'État arrivent dans un pays et qui ont quelque conscience des choses, la première chose qu'ils font, c'est alphabétiser les gens. Donc, c'est ce qui s'est passé à Cuba. Mais je me dis, apprendre à lire et écrire, pour lire quoi et écrire quoi? Parce que c'est vrai que bon... Il y a un seul journal, il y a un seul journal à Cuba, le Grama. Il y a un seul journal. Évidemment, c'est un journal d'État. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information? Celles qu'ils veulent. À la télé, il n'y a que des telenovelas ou des films américains. Écrire, bon, c'est surtout la diaspora qui écrit. Le seul qui habite vraiment à Cuba, c'est Leonardo Padura. Je lui avais demandé une fois, mais comment il fait par rapport à la censure et tout ça. Il m'avait dit qu'il connaissait suffisamment le pays pour savoir quelles étaient ses limites. Et donc, il s'arrêtait à ses limites-là. Bon, moi, je trouve qu'il les dépasse pas mal. Mais il se trouve que, voilà, il y a Leonardo Padura, il y a un autre écrivain qui est uruguayen, mais qui habite à Cuba, mais qui s'appelle Daniel Echevarría, qui écrit des choses très intéressantes. Mais sinon... Moi, je dois dire que depuis le temps que je vais, j'ai essayé de trouver des bouquins. Il n'y a pas grand-chose dans les auteurs cubains, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils auraient envie de dire. On trouve des livres d'Isabel Allende ou d'autres écrivains qui ne sont pas cubains, mais qu'on peut trouver à Cuba pour pas cher. Mais quand même, des écrivains cubains, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont dans le pays. J'ai pas vraiment trouvé. Pourtant, à chaque fois, je fais les librairies et tout ça. Bon, et ça, c'est au niveau de l'écriture, mais bon, au niveau du reste, les Cubains ne lisent pas. Ils ne lisent pas, ou très peu. Donc, ça sert à quoi d'apprendre à lire, si c'est pour lire le Gramma ou pas de livre. Ils ont, je dirais presque qu'ils n'ont pas le temps de lire, quand même. C'est un peu galère, leur vie. Ils passent leur vie à galérer pour trouver le minimum vital. Donc, ils ont pas le temps, ni l'esprit peut-être, à lire.
Ils ont faim ?
Ils ont tout le temps faim. Tout le temps faim. Mais ils ont de quoi manger. Ils ont de quoi manger, évidemment. C'est pas qu'ils manquent à manger. Le problème, à mon avis, c'est qu'il faut y passer sa vie à trouver de quoi manger. Voilà. Il y a les trucs de base. Les trucs de base. Dans les magasins d'État, il n'y a plus rien ou pas grand-chose. Les trucs de base. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps faim, que moi que je les vois manger, je trouve qu'ils mangent beaucoup, comme s'ils avaient peur de ne pas avoir à manger le soir ou la fois après. Ils manquent pas de quoi manger, mais c'est vrai que il faut faire des queues de 1 heure ou 2 heures pour trouver quelques trucs à manger. Il y a des arrivages dans les magasins d'État, mais quand il y a un arrivage, il y a 2000 personnes qui vont faire la queue parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Comme son nom l'indique, des arrivages, c'est... Alors pour les choses exceptionnelles, ça peut être du poulet, ça peut être des œufs, des choses comme ça. Ils se débrouillent quand même pour manger, mais enfin bon, je trouve que ce n'est pas forcément nourrissant. Je trouve qu'ils ne sont pas en très bonne santé. Et la plupart n'ont plus de dents. Ils sont tous diabétiques et machin. Les moyens de contraception n'existent pas. Les nanas, elles se font des... Le moyen de contraception, c'est l'avortement. Bon, quand même, je trouve ça un peu... Voilà, un peu limite, tout ça.
Et la question là que je me pose en t'écoutant, c'est... comment tu fais, toi, quand tu es à Cuba, pour vivre? Parce que t'es quelqu'un, tu aimes les gens, tu aimes parler, tu aimes la liberté, la tienne, celle des autres. Tu te mets en colère, t'as des colères justes. Hein. Comment on fait pour justement vivre avec ce que tu nous expliquais, là, cette surveillance, le fait qu'à une époque, il fallait se mettre dans un coin pour parler aux gens, que des fois, peut-être, l'empathie que tu peux avoir, le fait que d'aller vers les gens, ça peut leur créer des problèmes. Comment on fait quand même pour concilier à la fois qui on est, qui tu es, et puis ce que tu aimes, aller vivre à Cuba?
Je dois dire que j'ai mis un bout de temps quand même à gérer tout ça. Mais je dirais un peu comme Leonard de Padura. Je le connais suffisamment pour connaître les limites et les possibilités. Oui, il y a des moments où je me paye des colères. Par exemple, dernièrement, j'étais faire une queue pour avoir un billet de bus pour aller de Santiago à La Havane. Il y avait un monde fou à la queue. Il y avait des gens qui nous passaient devant. Et puis, il y avait des gens qui rouspétaient. Et moi, je disais, mais oui, non, mais c'est vrai que c'est pas normal tout ça. Et alors, les gens rouspétaient, et moi, de leur dire, jusqu'à quand vous allez supporter ça? Jusqu'à quand vous allez supporter ça? Et puis au moment où je dis ça, je vois les gens qui me regardent d'un air de dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est vrai que je suis mal à l'aise, donc j'essaie de tourner ça en dérision, en humour, mais je le dis quand même, je le dis souvent parce que je leur dis que si on veut que ça change, il faut qu'on fasse ce qu'il faut faire pour que ça change. Les musiciens aussi, une fois ça m'est arrivé avec la bande municipale, où ils ne pouvaient pas jouer un jour parce qu'il n'y avait pas de chaises. Ils sont sur la place, ils sont sur des chaises, ils sont une cinquantaine. Et bien ce jour-là, les chaises étaient réquisitionnées parce qu'il y avait une manifestation politique. Et alors, ils ne jouaient pas. On les fait venir, et puis après, il faut qu'ils rentrent chez eux. Les gens, des fois, ils habitent vachement loin. Après 1 heure ou 2 heures de transport, ils arrivent, on leur dit qu'ils ne peuvent pas jouer parce qu'il n'y a pas de chaises. chaise, donc ils sont obligés de refaire le... Alors, moi, ça me met dans une colère. Alors, je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous acceptez ça? Bon, alors, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais de la façon dont ils le disent, je suis mal à l'aise, quoi. Donc, du coup, j'essaye de tourner ça après autrement. Mais effectivement, je ne peux pas faire autrement que de ne pas le dire. Bon, maintenant, je n'ai plus besoin de le faire dans la rue avec les gens. Je veux dire que je peux parler d'une façon un peu plus intime sur les choses qui se passent, et donc pas dans la rue. J'habite dans une maison où il y a une famille, donc je vois bien qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et donc je peux parler avec eux de tout ça. C'est pas comme au début quand j'allais, où je connaissais personne, ça pouvait se passer dans la rue. Je crois que c'est ça, voilà. Je connais mes possibilités et mes limites. Et puis bon, je crois que maintenant, ça fait très longtemps que je vais, je pense qu'on doit me connaître. Je parle bien de la surveillance. Donc on doit se dire, elle n'est pas dangereuse. Celle-là, on va la laisser dire, elle n'est pas dangereuse.
Quand tu vas à Cuba, tu n'y vas pas les mains vides, les valises vides.
Alors là, il manque de tout. Il manque de tout ce qu'on a ici, nous, en plus, ou en trop. Alors évidemment, moi, quand j'ai des trucs où je vois des choses et je sais que telle personne en aurait besoin, évidemment, moi, je pars avec des valises dans les aéroports et compagnie. Mais quand même, il y a un truc que j'ai mis longtemps aussi à gérer, c'est le fait que ils disent jamais merci, hein. Jamais, non. Alors, je ne sais pas si c'est par fierté ou parce qu'ils trouvent ça normal que nous, on a tout, c'est ce qu'ils disent, on a tout. Donc, qu'on amène des cadeaux, qu'on soit chargé comme un bourrique quand on va là-bas, eh bien, ils trouvent ça normal. Donc, bon, quand même, moi ça me gêne un peu. Si j'amène des fringues, par exemple, j'aimerais bien qu'on me dise que les fringues lui vont bien, qu'il le trouvait bien. Non, non, pas du tout, non. Bon, voilà, c'était un peu gênant. Bon, mais maintenant, je me dis que je ne vais plus m'arrêter à ça, que j'amène des trucs, je donne des trucs aux gens et des aides si j'en ai envie. Et si j'ai envie, je le fais sans attendre rien en retour. Et si je n'ai pas envie pour des raisons X, je ne le fais pas et puis voilà.
Est-ce que les Cubains te reprochent d'être finalement d'être une Française ou même espagnole d'origine espagnole, d'être une étrangère, d'être une touriste, d'avoir tout ce qu'ils n'ont pas? Est-ce que ça t'arrive ça?
Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Ils n'ont pas du tout cette attitude vis-à-vis de personne comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'entendre, pas par rapport à moi, mais par rapport à d'autres personnes, en parlant d'autres personnes, de dire des choses comme ça. Mais c'est jamais mal intentionné, ni... Non, non, c'est pas du tout ça. Ils sont pas du tout dans ce truc-là. Et si tu veux, par rapport à moi, je dois dire que j'aide tout le monde, j'aide tout le monde. Quand on sort ensemble, c'est toujours moi qui paye à boire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors donc, ils ne peuvent pas me reprocher ça. C'est pas possible. Parce qu'en plus, quand j'entends quelqu'un qui aimerait avoir un truc ou qui a besoin d'un truc, la fois après, je viens, je lui amène. Ça m'est arrivé, là, il y a un musicien qui disait qu'il aimait beaucoup Charles Aznavour. Il a une grande presse, Charles Aznavour, à Cuba, hein, parce qu'il chantait en espagnol.
C'est bien la peine hein, d'être cubain pour aimer Charles Aznavour. Hein.
Ben oui, mais si tu veux, ce que chante Charles Aznavour ressemble beaucoup aux boléros et aux chansons cubaines, en fait, tu vois, parce que c'est des choses de la vie, des choses de l'amour, voilà, ils aiment beaucoup. Et donc, ce gars me disait qu'il aimait beaucoup, alors je dis, écoute, moi j'ai des disques à la maison, je te graverai un disque. Et il me dit, ah oui, j'aimerais bien avoir un DVD. Ça serait bien d'avoir plutôt un DVD. Alors voilà, je lui ai amené un DVD. Je lui donne, il le regarde, et puis il le donne à quelqu'un d'autre pour qu'il lui passe pour le regarder. Et j'attends encore qu'ils me disent s'il est bien et dire que je suis sympa de l'avoir amené. Tu vois, donc, si j'entends un truc, des clés USB, par exemple, ils en ont besoin tout le temps, les musiciens, donc j'en amène, je distribue. Ils ne peuvent pas, à moi, me reprocher des choses comme ça parce qu'il n'y a aucune raison.
On est dans une société paisible, ou alors est-ce qu'il y a quand même de la violence, des endroits où on ne va pas, une pègre?
Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas vraiment de violence, mais par contre, je trouve qu'ils ont une violence un peu retenue, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de mettre des gens au pied du mur, pour des choses qu'ils avaient fait, mettre des gens au pied du mur. Là, ils sont, mais terribles, impitoyables, ils sont capables de tout. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, tu vois, moi, je pense que c'est une espèce de violence qui est retenue et qui, à un moment donné, éclate et qui ressort comme ça. Quand même. Mais c'est vrai que l'expression n'est pas vraiment permise, quelle qu'elle soit. Donc, même la violence n'est pas vraiment permise. Et ils ont quand même aussi beaucoup d'humour. Donc, du coup, il y a des choses qui ressortent avec humour plutôt que par la violence. Mais bon, il y a des moments où on a l'impression que vraiment c'est trop et que ça éclate.
Toi, tu défends Cuba, cette histoire-là, depuis 1959, c'est ça, hein? Tu défends ce régime, tu défends cette histoire.
Ben, quand même, je suis lucide, je vois les pour et les contre, enfin, ce qui va, ce qui ne va pas. Je le défends dans la mesure où Castro et tous ses compagnons, ils ont quand même fait une révolution. Castro a fait de la tôle au moment de Batista. Après, ils sont partis dans les montagnes. Tu vois, je veux dire qu'ils se sont gagnés. Le pouvoir, ils se le sont gagnés. Et que je pense qu'ils étaient sincères dans tout ce qu'ils pensaient et de tout ce qu'ils ont fait au départ. Ils ont fait des choses intéressantes. Mais il me semble que c'est peut-être pas si facile que ça de gouverner un pays, surtout un pays comme les Cubains, quand même, ils sont un peu foutraques. Et puis, quand même, il a eu je sais pas combien d'attentats. Il a eu les États-Unis qui l'ont fait chier toute sa vie. Donc, ça devait pas être très facile. C'est la raison pour laquelle aussi il s'est tourné vers l'URSS. Bon, mais c'est vrai que l'URSS a beaucoup aidé Cuba, de la même façon que les colonialistes ont aidé les pays d'Afrique. Tu vois, je trouve que c'est pas ça l'aide, comme disent un refrain chinois qui dit il faut apprendre aux gens à pêcher plutôt que leur donner un poisson. Eh ben voilà, c'est pas ce que l'Union soviétique a fait. Elle a porté plein de choses et du coup, ben elle s'est laissée un peu vivre. Et lorsque ça a été tombé, eh ben ils étaient dans la mouise. Je trouve quand même qu'il y a eu des choses faites très intéressantes. Bon, sur la durée, ça n'a pas marché, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où ce genre de choses a duré aussi longtemps. Bon, moi, je ne parlerai pas de dictature, je ne dis pas que c'était le paradis, mais ça me gêne de parler de dictature, de dictateur, même si parfois, il y a des parallèles avec Franco, par exemple, quand je lis des trucs sur Franco.
Non, parce que Franco, c'est une dictature.
Je l'ai vécu, je peux te le dire.
Pourtant, la France entière allait en vacances en Espagne. De Gaulle, je crois qu'avant de mourir, c'est un des grands chefs d'État qui est allé rendre visite, Franco.
Et pourquoi les gens ils allaient en vacances en Espagne, à ton avis? Ben parce que c'était pas cher, la pesette ne valait rien. Et qui c'est qui allait en vacances? C'était le peuple, hein, qui allait en vacances en Espagne parce que c'était exotique et que ça coûtait pas cher.
Mais... Oui, alors le parallèle avec Franco, excuse-moi.
Oui, il y a des choses comme ça. Enfermer le pays dans un culturellement, économiquement et expression à tous les niveaux, ça ressemble un peu. Mais quand même, il y avait d'autres idées, d'autres théories. Non, je trouve que quand même un peu lui concéder ça à Fidel, c'est qu'il s'est cassé le...
Il a cassé sa pipe. Hein.
Il se l'est gagné. Voilà, il se l'est gagné. Il se l'est gagné quand même. Il n'est pas arrivé comme nos chefs d'État. Là,
bon. Mais après, on pourrait dire ça de tous les dirigeants qui prennent le pouvoir comme ça. On pourrait dire ça de même de Adolf Hitler et des nazis. Ils se le sont gagnés aussi. Hein.
Ben, écoute, les idées n'étaient pas les mêmes. C'était dans un but, quand même, Castro, il a foutu dehors les pestous du style Batista et compagnie.
Toute la pègre.
Oui, toute la pègre, quand même. Bon, c'était quand même autre chose que les exemples que tu viens d'employer. Et puis donc, installer une société un peu plus juste, voilà.
Une conversation cubaine avec Gloria Garcia sur Alternante FM 98.1 à Nantes et 91 à Cambon. Et on avait commencé ce dialogue avec Gloria Garcia à propos de Cuba en musique. Et c'est en musique qu'on va le terminer. Continuez à écouter toutes les radios libres et associatives. Hasta luego. Bon, tout à l'heure, tu as dit un refrain chinois, là. C'est un proverbe, mais comme tu mets tout en musique, en fait.
Ah bon?
Oui, tu as dit un refrain chinois.
Oui.
Alors, si tu veux bien, on a commencé par de la musique, cette discussion sur Cuba, à bâton rompu, comme on dit. Est-ce qu'on pourrait pas la terminer en musique? Est-ce que tu pourrais pas nous faire écouter un truc?
Bien sûr. Tiens, tu vas voir.
Tu vas voir, on voit rien à la radio.
Classique. Hein.
Tu vas écouter. Un classique.
Un classique de la musique.
Ah ben ça, c'est Cuba.
Oui, absolument. Ça, c'est Baracoa. Ça, c'est Baracoa. La plage de Baracoa. Et ça, c'est un stade. Le stade.
Il est terminé? On a l'impression qu'il n'est pas terminé.
Bien sûr qu'il est terminé. Mais tous les édifices à Cuba sont un peu comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'était des édifices magnifiques. Mais comme ça fait 50 ans qu'on n'a rien fait... ils sont...
Mais nous pas Charles Aznavour, hein. Avec Placido Domingo, là on n'est pas du tout à Cuba. Il y avait la familia Valera Miranda.
Oui, allez, on va la mettre.
Je me rappelle, j'ai un magnifique souvenir d'eux. Alors, je les connaissais un peu parce qu'on a un ami commun, là, Antoine Chao, qui a produit un de leurs derniers albums. Et je me rappelle les avoir vus... À Langon, aux Nuits Atypiques, il y a quelques années, il venait en remplacement de je ne sais pas quelle star. Et je me rappelle, c'est un superbe concert sur la Familia Valera Miranda. Alors, parle-nous-en.
Alors, la Familia Valera Miranda, comme son nom l'indique, c'est une famille, le père, la mère et les trois enfants. Ils font de la musique traditionnelle depuis deux générations. Et ils habitent à côté de chez moi, ça fait que du coup je vais aux répétitions chez eux. J'aimerais bien me mettre Lagrimas Negras parce que c'est quand même le
l'hymne.
En el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. La inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Una paloma voló, otra se quedó en el nido. Se escucharon los gemidos cuando el pájaro voló.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Digo, me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.